La terre battue, c'est une histoire très compliquée. Alors mon propos, ce sera d'essayer, si je peux, de vous la rendre claire. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de vous donner une espèce de précis chronologique de sa terre, que nous puissions bien en suivre les principales étapes du déroulement. Alors tout commence au mois de septembre 1894, au service français des renseignements. Nous l'appellerons le SR pour les civils. Et le SR était dirigé alors par un colonel alsacien, c'était Sander, S-A-N-D-H-E-2-R, Sander, et qui avait comme premier collaborateur le commandant, bientôt lieutenant-colonel, Henri. Alors, ce jour-là, qu'on n'avait jamais défini exactement, on ne sait pas si c'était le 25, 26, ce jour-là, de septembre 1994, le SR a entre les mains un papier promené. Comment est-ce qu'il l'a, ce papier? Ben, ce papier vient, paraît-il, de l'ambassade d'Allemagne, je dis bien, paraît-il, de l'ambassade d'Allemagne. Il aurait été piqué dans la corbeille à papier de l'attaché militaire allemand à Paris, qui s'appelle Schwarzkoppel, piqué par quelqu'un que le SR français entretenait à l'ambassade d'Allemagne, c'est-à-dire une femme de ménage. Cette femme de ménage, c'était Madame Bastien, elle recevait, je crois, 200 francs par mois, et elle apportait tous les 8 jours, tous les 15 jours, au SR, le contenu de la corbeille à papier de l'attaché militaire allemand. Ce jour-là, dans ce qui était arrivé dans les fournitures de Madame Bastien, il y avait un papier étonnant. Il était sans date, il était sans signature, on va l'appeler le bordereau, quoi que ce soit vraiment une lettre missive, envoyée par X à Schwarzkoppel, et on l'appelle bordereau parce qu'il y a l'énumération de documents. Alors je vous lis le début au moins de ce papier extraordinaire. Sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant, monsieur, quelques renseignements intéressants. Premièrement, une note sur le frein hydraulique du canon de 120. Une note sur les troupes de couverture. Troisièmement, une note sur une modification qui vient d'intervenir pour les formations de l'artillerie. Une note relative au corps expéditionnaire de Madagascar. Enfin, cinquièmement, le projet de manuel de tir de l'artillerie de Sandal. Évidemment, c'est dense. Il y a donc un Français, et probablement un officier, pour qu'il soit si bien renseigné, qui fournit à l'Allemagne, par l'intermédiaire de Schwarzkoppel, l'attaché militaire allemand à Paris, je répète, fournit des documents intéressants de la défense nationale. À essayer de savoir qui est ce mystérieux X. Alors, c'est ce qu'on fait au SR, on va faire 5 photographies de ce document. Pourquoi 5? Parce qu'il y a 4 bureaux militaires, alors on fera une photographie pour chaque chef de bureau et une photographie pour le ministre. Le ministre, c'est un général, le ministre de la guerre, c'était le général Mercier. Les photographies doivent avoir été faites, comme ça, 28-29 septembre, mais alors la première date sérieuse connue d'une affaire, c'est 6 octobre. C'est terrible, le 6 octobre. Il arrive ce 6 octobre que le sous-chef du 3e bureau militaire, qui s'appelait le lieutenant-colonel Daboville, vient trouver SR, il vient trouver Sander, chef du SR, et il lui dit, je crois que j'ai reconnu l'écriture du bordereau. C'est l'écriture d'un garçon, d'un officier, qui a été stagiaire chez moi, qui a traversé les majors, qui n'y est plus maintenant, qui est en garnison à Paris, c'est un capitaine d'artillerie, au 14e régiment d'artillerie, il s'appelle le capitaine Alfred Dreyfus. À mon avis, c'est l'écriture de Dreyfus. Et Daboville dit, je l'ai cherché dans mes papiers, j'ai trouvé enfin quelques traces de l'écriture de Dreyfus, quand au début de ces années 94, il avait été stagiaire chez moi. À mon avis, c'est l'écriture. Alors vous voyez, il faudra rappeler ceci, que ce Daboville, ce lieutenant-colonel Daboville, c'est celui en somme qui a accroché l'affaire Dreyfus, parce que c'est lui qui a prononcé pour la première fois le nom du capitaine Dreyfus, en disant, c'est l'auteur de ce mystérieux bordereau. Laissez-moi ouvrir là une petite parenthèse, j'ai l'impression que le lieutenant-colonel Daboville, il se serait moins empressé de reconnaître, en se trompant, l'écriture de Dreyfus sur le bordereau, s'il ne s'était pas agi d'un juif. Jamais, on l'a vu encore, d'officier juif passé à l'état-major. Ça avait été un scandale lorsque ce juif, Alfred Dreyfus, avait été stagiaire à l'état-major. Dans les bureaux, on n'en voulait pas, on essayait de se le refiler. Il y avait à ce moment-là un antisémitisme affreux dans l'armée. Et le gouvernement tolérait des choses que je trouve, pour ma part, inadmissibles. Il y avait un journal qui s'appelait Libre Parole, dirigé par Drummond, et qui, périodiquement, depuis 1892, faisait, je ne sais pas, tous les mois ou tous les deux mois, un article intitulé « Les Juifs dans l'armée », désignant nommément les officiers juifs et concluant chaque fois qu'un juif était un traître en puissance. Bon, alors voilà que Dreyfus, ce malheureux Alfred Dreyfus, est désigné comme l'auteur du bordereau. Bien entendu, il faut vérifier l'affirmation de M. Daboville, alors qu'est-ce qu'on fait? Le ministre de la Guerre, Mercier, va convoquer le meilleur expert de France, c'est-à-dire l'expert de la Banque de France, qui s'appelait M. Gobert. Gobert met 3 jours pour se prononcer, réfléchit bien, travaille bien, fait des comparaisons d'écriture, et il dit au ministre de la Guerre, Mercier, non, vous vous trompez, enfin, ou plutôt M. Daboville se trompe, n'y a pas de ressemblance à elle entre l'écriture du nommé Dreyfus et l'écriture du Bordeaux. Néanmoins, pour des raisons que nous verrons, Mercier, ministre de la guerre, prend. Et il va appeler un autre expert, qui du reste n'était pas un expert. C'était le chef du service anthropométrique à la préfecture de police. On se demande pourquoi il l'avait choisi. Et il demande à ce garçon qui s'appelle Vertigon, il lui dit, vous allez faire un nouveau rapport sur, l'expertise, quoi, sur le bordereau. Avant, attention, hein, avant que Vertigon ait remis son rapport, à la date du 12 octobre 1994, Mercier, ministre de la guerre, décide l'arrestation du capitaine Bressy. Cette arrestation a lieu le dimanche 15 octobre à 9h du matin. Dreyfus a été convoqué au ministère de la guerre, on lui met la main sur l'épaule, on lui dit vous êtes inculpé de trahison, en paix. Alors Mercier va charger un officier qui s'appelle le commandant Dupaty de Clam de faire l'enquête. Dupaty de Clam est un brave homme qui n'était pas un homme très remarquablement intelligent, mais qui était fort honnête. Et Dupaty de Clam va essayer de trouver des informations sur ce Dreyfus. Voyez-vous, d'habitude, lorsqu'il s'agit d'une trahison, il y a deux explications possibles, il n'y en a même jamais que deux. L'explication banale, l'explication courante, c'est l'argent. Le prêtre est facile de payer. Il y a parfois une explication idéologique, c'est-à-dire le prêtre est un homme qui, non pas par besoin d'argent, mais par haine de tel pays, renseigne le pays adverse. Alors Dupaty cherche à comprendre qu'est-ce que c'est que ce Dreyfus. Il s'informe. Alors, Dreyfus est un homme riche, personnellement riche, un Alsacien, et il a épousé une fille très riche, qui s'appelle la fille Adamar, fille d'un diamantaire parisien. Donc ils ont beaucoup d'argent. Il ne semble pas qu'ils en aient besoin. Mais vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui en dépensent énormément. Alors est-ce que Dreyfus est un dépensier? Pas du tout, c'est un homme qui vit avec sa femme et ses deux enfants, très tranquillement, rien sur lui, on fait des enquêtes de police, on le surveille, on regarde, on a, il n'y a pas de maîtresse connue, c'est moi. Il ne va pas dans les clubs, il ne joue pas, il ne va pas aux courses. Enfin, c'est pas un homme qui dépense. Alors pas d'explication, on ne voit pas les points de vue matériel, financier, pourquoi cet homme aurait trahi. Autre explication idéologique, alors ce serait un gars qui déteste la France. Ça ne va pas non plus, parce que justement c'est un Alsacien, vous savez qu'à ce moment-là l'Alsace est possédée par l'Allemagne, une partie de la famille Dreyfus est restée dans les environs de Mulhouse, ils ont là une industrie, les Dreyfus qui sont restés là-bas gagnent beaucoup d'argent, et lui, précisément pour ne pas être sous la domination allemande, il a choisi de venir vivre en France, il a fait ses études militaires, passé par Saint-Cyr, et le voilà maintenant qui a une petite salle de société parce qu'il l'a choisi. Pas d'explication. Alors contre lui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a le nouveau rapport de Vertigon. Alors celui-là, Vertigon a dit oui, je crois que c'est l'écriture de Dreyfus. Mais contredit par le rapport de Gobel, on va faire une expertise cette fois par 5 experts, les experts vont se diviser, il y en a 3 qui vont dire oui, oui, c'est Dreyfus, 2 qui vont dire non, c'est pas Dreyfus. Toujours est-il que l'affaire se présente tellement mal que le 29 octobre 1994, Dupaty de Clam remet un rapport, terminant son enquête, remet un rapport au général Mercier, et lui dit, à mon avis, mon général, il faut abandonner les poursuites. C'est pas l'avis de Mercier. Mercier est absolument résolu à faire passer en jugement et à faire condamner. Le 28 novembre, Mercier va faire quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Il a été interviewé par un journaliste du Figaro, et il répond à ce journaliste qui lui dit, alors cette affaire de l'officier emprisonné. Oui, dit Mercier, nous avons toutes les preuves de sa culpabilité et il sera infailliblement condamné. Ben, vous comprenez bien qu'il ne pouvait pas faire une déclaration pareille puisqu'il est ministre de la guerre et que cet homme, Dreyfus, va passer en jugement. C'est donc le ministre de la guerre qui préjugeait le jugement du Conseil de guerre et qui semblait donner instruction aux officiers du Conseil de guerre d'aller me condamner ce type-là. Alors c'était tellement maladroit qu'il avait été Mercier, qui était ministre de la guerre, je vous le dis, que le président du Conseil, depuis, lance un démenti dans la presse et dit un journal, qui s'appelle Figaro, a attribué au ministre de la guerre certaines déclarations qu'il ne peut pas avoir faites, c'est inexact, le journaliste a mal compris, on ne peut pas préjuger le jugement car le Figaro imprime le démenti parce que c'est l'ordre gouvernemental, mais c'est sûr, une petite note disant, mais notre correspondant, notre rédacteur, l'homme qui a interviewé Mercier, sait très bien que le général lui a dit les paroles qui viennent de rapporter. Alors c'est à la fin de décembre que Dreyfus va passer en jugement. Mercier, c'est du mauvais sens. Parce que les juges qui vont avoir à juger sur pièce, qu'est-ce qu'ils ont dans leur dossier? Ben, ils n'ont rien. Rien. Ils ont le bordereau d'un côté et l'écriture de Dreyfus, et il y a une ressemblance entre l'écriture de Dreyfus et l'écriture du bordereau, ressemblance niée par l'expert Gobert, affirmée par l'expert Vertigon, et niée et affirmée, puisqu'il croit contre deux, par les 5 autres experts. Alors Mercier se dit, ben, il y a toutes les chances pour que, en présence d'un dossier à ce point vide, les juges militaires ne décident pas de relaxer ce Dreyfus. Et il ne le veut pas, Mercier. Alors Mercier va commettre le dernier jour du procès, qu'il faut bien appeler, ce n'est pas de la polémique, c'est un fait, une forfaiture. Qu'est-ce que c'est qu'à forfaiture de Mercier? Eh bien voilà, le dernier jour, les juges avaient terminé, le procès était fini. Les juges s'étaient rassemblés, les juges militaires s'étaient rassemblés dans une pièce, c'était le 22 décembre à 18h, et dans cette pièce, ils devaient discuter le coup pour savoir quel verdict ils allaient prononcer. C'est à ce moment-là, les débats étant terminés, que le ministre de l'Air fait porter à ces juges qui sont réunis dans la petite salle de délibération, leur fait porter ce qu'on va appeler le dossier secret. Pourquoi est-ce qu'il y a forfaiture? Parce que dans tout procès, qu'il s'agisse d'un procès civil ou procès militaire, on ne peut pas faire intervenir une pièce dont l'accusé n'a pas connaissance, et donc son avocat, qui était maître de manche, n'a pas connaissance non plus. Une pièce clandestine. Dans ce dossier secret, il y avait 4 pièces. Donc aujourd'hui, il y en avait 3 qui étaient sans valeur, qui étaient, comme on dit, des pièces de comparaison pour montrer l'écriture. Et puis la 4e pièce, elle est intéressante. C'était une lettre de l'attaché militaire allemand, Schwarzkoppen, à l'attaché militaire italien à Paris, qui s'appelait Panizzardi. Et dans cette lettre, Schwarzkoppen disait à son collègue italien Panizzardi, je vous envoie 12 plans directeurs de Nice. Les plans directeurs, c'est des plans extrêmement minutieux de fortification. Donc, je vous envoie 12 plans directeurs de Nice que ce canaille de D, nous disons en français cette canaille, mais Schwarzkoppen écrivait en français approximatif, que ce canaille de D, les majuscules, m'a remis à votre intention, vous, Italiens, comme ça. Il n'y avait que D dans le document. Mais puisque le ministre de la guerre engageait en somme sa parole, puisqu'il communiquait aux juges cette pièce en leur disant, vous voyez, il y a une pièce secrète où on voit bien que D, c'est Dreyfus, les juges vont à l'unanimité déclarer Dreyfus coupable. Alors Dreyfus va être condamné au maximum, à ce moment-là, il n'y avait pas encore la peine de mort, mais Mercier va changer ça. Dans quelques mois, Mercier fera voter la peine de mort pour les traîtres. Le maximum pour un traître, c'est à ce moment-là, s'il était militaire, la dégradation militaire et la détention à vie dans une enceinte fortifiée. Ah ben, Dreyfus a naturellement le maximum, il va être dégradé, et il va être conduit, vous le savez sans doute, dans cette petite île au nom palestinien, l'île du Diable, qui est une possession française dans l'Atlantique, au large de la Guyane. C'est le 5 janvier 1995 que le malheureux et innocent capitaine Dreyfus va être dégradé dans la cour de l'école militaire de Paris. On a souvent raconté cette dégradation, ça a été en effet abominable, il y avait 4000 hommes de troupes qui avaient été rassemblés. Devant ces 4000 hommes de troupes, on fait avancer Dreyfus, qui est encadré par 4 soldats. Il y a un adjudant de la garde républicaine qui a été choisi par sa taille exceptionnelle, il a plus de 2 mètres de haut, qui va procéder à la dégradation proprement dite, c'est-à-dire qu'il va nous arracher ses galons, ses boutons, qu'on a préalablement décousus pour que ce soit plus facile. Puis il a une inspiration, l'adjudant, pour que ce soit plus drôle, quand il a pris le képi de Dreyfus pour arracher les galons, il a donné un coup de poing dans le képi. Il lui a remis sur la tête. Képi pointu maintenant, il essaie de bonnet de clou. Et c'est dans cet attirail que Dreyfus va être obligé de passer devant le front des troupes, pour faire le quadrilatère des hommes rassemblés là, entouré de ses 4 soldats par Blocaire, et ce malheureux gaillard, tous les 10 pas, il marche au pas, tous les 10 pas, spasmodiquement, il criait, je suis innocent, vive la France! Bon, il part. Voilà la Guyane maintenant, dans ce milieu du Diable. Il n'y a pas d'affaire Dreyfus. Faut bien comprendre ça, il n'y a pas d'affaire Dreyfus, parce que tous les Français, qui ont dit ça dans les journaux, sont convaincus qu'il ne peut pas y avoir une erreur pour une chose si grave, puisque le Conseil de guerre, à l'unanimité, a reconnu coupable de Dreyfus, c'est que malheureusement, cet homme était un traître. Pas d'accord. Les mois passent. Nous voilà maintenant en mars 96. Vous voyez, 5 janvier 95, mars 96. En mars 96, le service français des renseignements de l'ESR a changé de titulaire. Sandler s'est tombé malade au milieu de 95, il avait été remplacé par un lieutenant-colonel Picard. En mars 96, le colonel Picard a à son tour entre les mains un très curieux document. Cette fois, il s'agit plus d'une lettre mystérieuse, non datée et non signée, qui aurait été trouvée dans la corbeille à papier de Schwarzkoppen. Il s'agit cette fois de quelque chose qui vient encore, la corbeille à papier de Schwarzkoppen, c'est toujours la femme de ménage qui l'a apporté au essai. Mais c'est un petit bleu, ce qu'on appelle à ce moment-là un petit bleu, c'est un pneumatique. Un petit bleu que Schwarzkoppen avait écrit, puis s'était ravisé, il l'avait déchiré en petits morceaux, il l'avait laissé tomber dans un cachet à papier, et Mme Bastien l'avait piqué là. Ce petit bleu était adressé à un officier français, à un major d'infanterie, le major Esclavi, 27 rue de la Vierge-Aisance. Notez que ce n'est pas très extraordinaire, avec un officier allemand accrédité à Paris dans une mission militaire s'adresse à un officier français, ça pouvait être pour une invitation au Brise, c'est pas quelque chose de mondain. C'est le texte de ce petit bleu qui était inquiétant. En effet, Schwarzkoppen disait à ce commandant Esclavi, il lui disait, j'ai besoin d'avoir de vous des explications écrite, pour savoir si oui ou non je peux continuer mes relations avec la maison R, R majuscule, c'est tout. C'est inquiétant, maintenant, hein, ça prouve rien, parce que cette maison R, ça pouvait être un petit fournisseur, moi, un tailleur, marchand de trimmer, en fait, ce que vous voudrez. Ça, ça valait la peine de faire une enquête. Alors Picard fait faire une enquête sur Serradi. Et autant l'enquête sur Dreyfus avait abouti à considérer que Dreyfus comme un parfait honnête homme, autant l'enquête sur Serradi offre des résultats inquiétants. Serradi, il est marié lui aussi comme Dreyfus, et même avec une fille de la noblesse. Il a deux enfants, c'est ça. Ça ne vit pas avec sa femme. Il l'a abandonné, elle et les deux enfants. Et il vit avec une ancienne prostituée qui est maintenant entretenue par lui, qui s'appelle Marguerite P. Il paye son loyer, il habite là avec elle, 27 rue de la Maison. D'autre part, cet individu est couvert de dettes. C'est un joueur, c'est un homme qui a eu des histoires impossibles. Deux fois, il a failli se faire chasser de l'armée, ce sont des interventions politiques qui lui ont maintenu. Enfin, le personnage le plus suspect. Par conséquent, ça devient mauvais, son cas. Picard continue. Et un jour, le lieutenant-colonel Picard reçoit, si je puis dire, quoi, un coup au cœur. Parce qu'il faut procurer de l'écriture de Serradi. Et quand il regarde l'écriture de Serradi, il s'aperçoit que cette écriture, je ne dis pas, ressemble à l'écriture du fameux Bordereau. Mais c'est l'écriture du Bordereau. L'identité est absolue. Alors Picard est assez bouleversé. Il dit quoi? Alors, par conséquent, le type est au bagne depuis 95, puis un an, puis plus d'un an, il est innocent. Et j'ai mis la main sur celui qui a vraiment écrit le Bordereau sur lequel la fortune de Dreyfus a été condamnée. Alors qu'est-ce qu'il fait, Picard? Ben, il fait ce qu'il veut faire, il prend son temps du reste, parce qu'il sent qu'il a la histoire dangereuse entre les mains, et il va voir ses chefs. Ces deux chefs, c'est le général Gons, G-O-N-S-E, Gons, sous-chef de l'état-major général de l'armée, et le général Le Mouton de Bois d'Effre, chef suprême de l'armée. Et Picard a la stupeur d'entendre ces deux généraux, l'un après l'autre, lui tenir le même langage. Ils lui disent, ah, vous avez trouvé un nouveau traître, c'est assommant, hein, l'armée est remplie de traîtres. Bon, étinglez-le, mais alors allez-y doucement, il ne faut pas l'histoire, il faut être sûr de votre coup. Mais on ne reparle pas de l'affaire Dreyfus. Ah, puis l'armée, en général, enfin, vous ne comprenez pas. Je ne dis pas que j'ai trouvé un nouveau traître. J'ai dit que j'ai trouvé le traître, à la place duquel il y a un innocent à l'immédiat. Visage de marbre, les deux généraux, qui lui disent, vous nous avez bien compris, colonel, on ne rouvre pas le dossier Dreyfus. C'est fini, Dreyfus restera mauvais. Picard s'aperçoit très rapidement qu'il a fait une erreur en soulevant, si je puis dire, ce lièvre. Parce que l'ISR, chef du SR, ben, il doit rester à son bureau, hein, chef du service d'enseignement centralise les renseignements, il est à Paris, quoi. Alors on l'envoie brusquement en mission. Il dit, vous avez une mission d'inspection à faire du côté de la frontière de l'Est. Il y va. Puis quand il a terminé son inspection, il envoie le télégramme, sa mission terminée, je rentre. Pas du tout, et c'est boomerang, donc on lui revient un autre télégramme, puis il dit, vous avez une seconde mission à faire, c'est toi de l'aide d'enseignement. Il commence un peu à se méfier, en effet, quand il fait sa mission d'inspection à Bélanchon, il envoie son deuxième télégramme, mission terminée, je rentre pas du tout, vous partez pour Marseille. Et quand il arrive à Marseille, il reçoit là un ordre d'affectation, il est envoyé, lui, chef du SR, tout simplement au commandement d'un régiment de tirailleurs à Sousse, en Tunisie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'on n'a pas voulu le dégommer d'une manière ouverte, mais on lui a retiré, doucement, sans histoire, sans décision, on lui a retiré ses fonctions de chef du SR. On l'envoie au fin fond de la Tunisie, il doit se tenir tranquille. Et effectivement, il se tient tranquille. Il ne dit rien. Cependant, la famille Dreyfus, Madame Dreyfus, qui était bien son mari innocent, et le frère de Dreyfus, qui s'appelle Mathieu Dreyfus, cherche tous les moyens d'obtenir la réhabilitation du frère et du mari injustement condamnés. Ils ont obtenu, dit Dreyfus, un renseignement. Ils ont su, par une indiscrétion qui vient du président de la République, en fait, ils ont su la forfaiture. Il s'était commis la part de Mercier pendant le procès. Alors ils ont pris un collaborateur qui s'appelait Bernard Lazare, qui savait bien écrire, et ils ont demandé à Lazare de faire une brochure là-dessus. La brochure de Bernard Lazare va paraître le 8 novembre 1996. Ça s'appellera « Une erreur judiciaire, la vérité sur la fabrication ». Mais le seul document, et c'est même pas un document, c'est le seul argument qu'a Bernard Lazare et que procède la famille Dreyfus, c'est « Le procès doit être refait parce qu'il y a un vice de forme, enfin une irrégularité très grave, communication de pièces à l'insu de l'accusé, etc. » Ça paraît le 8 novembre. Quand résultat, enfin, les gens lisent ça avec une indifférence complète en se disant « c'est pas sérieux ». Néanmoins, un député, je vous raconte une histoire qui a l'air sans importance, mais ça aura beaucoup d'importance pour la suite. Un député, qui s'appelait Castelin, veut interpeller le gouvernement sur ce qu'il croit être une espèce de manœuvre pour remettre en cause la culpabilité de Dreyfus et le jugement du Conseil de guerre. Alors l'interpellation va avoir lieu le 18 novembre 1996, et le nouveau ministre de la Guerre, qui est aussi un général, qui s'appelle Billot, ce jour-là, 18 novembre 1996, dit comme déguisement à la tribune de l'Assemblée, enfin il y a une brochure qui est parue aussi, c'est pas intéressant, le capitaine Dreyfus a été et là je vous assure qu'il avait pesé ses adverbes, a été justement et régulièrement condamné. Justement, ça veut dire qu'il a été condamné avec justice parce qu'il était coupable, il a été régulièrement condamné, il n'y a pas de juge de forme, quoi que raconte, il n'y a rien de bref. Bon, toujours pas d'affaire bref. Troisième temps. Nous sommes maintenant en juin 97. Il y a donc 2 ans que Dreyfus est au bal. Juin 97. Le lieutenant-colonel Picard, qui est d'Assouche, comme vous savez, a demandé un congé. Et il s'est rendu à Paris. Et le 21 juin 97, à Paris, dans le bureau d'un avocat, qui était un de ses amis, qui s'appelait l'avocat Leblois, lequel était aussi conseiller municipal de Paris. Dans le bureau de l'avocat Leblois, Picard mange le morceau. Et il dit à Leblois tout ce que je viens de vous raconter. Il lui dit, j'ai eu entre les mains la preuve que Dreyfus est innocent, je sais qu'il est coupable, il s'appelle Esferazzi, ne bougez pas Leblois, ben, il fallait que vous sachiez ça, vous bougerez lorsque je vous dirai de le faire. Eh bien, Leblois ne pas respecter cette consigne, parce que se taire dans une question pareille, ça lui paraît impossible, étant donné qu'il y a un innocent qui l'a beau bas. Et comme lui est un petit personnage parisien, mais il n'a pas la surface suffisante pour faire ce qu'il veut faire, il a cherché quelqu'un d'important, quelqu'un qui pourra se faire écouter pour prendre en main cette affaire de réhabilitation. C'est là où Leblois pense à M. Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, qui était un Alsacien, il prononçait Michel Gross-Kestner, mais les Français disaient Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, un vieil homme qui est entouré d'une estime générale, c'est un homme du sens, il n'avait ni à droite ni à gauche, en plus, patriotisme indiscutable, c'est un Alsacien, il a été autrefois député protestataire, enfin il est parfait, c'est un homme tranquille, c'est un homme calme. Alors pour accrocher une pareille affaire, il fallait justement un homme calme et respecté. Alors Scheurer-Kestner voit le dossier, que lui a expliqué Leblois, et il dit, c'est évident, il faut absolument faire réhabiliter ce capitaine innocent. Et Scheurer va trouver le ministre pour la guerre, qui est toujours Billot, dont je vous parlais il y a un instant. En plus, Scheurer tutoie Billot. Alors j'ai vu le récit de Scheurer-Kestner, c'est pas encore publié aujourd'hui, le récit de sa visite à Billot. Il est amené chez lui, et il lui a dit, mon Dieu, j'ai déjà entre les mains l'histoire du tonnerre Billot, c'est très grave. Le conseiller de guerre s'est trompé, on l'a condamné à innocent. Je comprends bien que si la politique s'en mêle, si les vilains, enfin les socialistes, après une chose comme ça, ils vont prendre prétexte pour faire une campagne contre l'armée, il ne faut pas de ça. Il faut que ce soit toi, Billot, ministre de la guerre, qui prenne l'initiative de l'affaire, de la révision. Tu diras, ben, c'est pénible à dire, en fait, il dira, un conseiller de guerre s'est trompé, mais il s'est trompé loyalement. Alors nous préparons tout de suite. On met à la place le vrai coupable, qui s'appelle Esferazzi, puis on va couvrir d'honneur ce malheureux Dreyfus, on va lui offrir de l'argent, il n'en voudra pas, mais je sais pas, mais on va le nommer petit colonel, on va le décorer. Billot dit, oui, c'est sérieux, on a fait ce qui va porter, il y a un dossier dramatique. Mais tu sais, moi, je suis ministre de la guerre, un ministre de la guerre, ça change. C'est hyper fou dans l'armée, c'est le chef d'état-major général. C'est Boilette, quoi, le mouton de Boilette. Il faut que j'ai l'accord de Boilette. Alors les jours vont passer, et Billot ne fera rien. Parce qu'il m'aurait parlé à Boilette. Et Boilette a dit au ministre, s'il avait déjà dit à Picard, pas question, mais pas question, de rouvrir le dossier de Dreyfus. Dreyfus est condamné, il restera condamné. Alors Scheurer dit à Billot, qu'il le revoit, il dit, écoute mon vieux, puisque l'armée ne veut pas marcher, ben je vais marcher, moi. Et je te donne 15 jours, hein, le 15 novembre, si tu n'as pas bougé, si l'armée n'a pas pris l'initiative de la réhabilitation, je fonce. Billot est très embêté, mais rien, il ne peut pas, puisqu'il est tenu par l'armée, par Boilette. Alors le 15 novembre, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer 2 choses qui ont été conjuguées. Ce 15 novembre, lui, Scheurer-Kestner, va publier dans la presse une lettre révélant la forfaiture de 94 pour faire casser le jugement pour l'huile de soir. Et le même jour, Mathieu Dreyfus, le frère de Dreyfus, qui a été informé par Scheurer-Kestner, fait une lettre au ministre de la guerre, également une lettre ouverte, enfin imprimée dans les journaux parisiens, disant, monsieur le ministre, j'ai l'honneur de solliciter non pas de votre bienveillance, mais de votre justice, la réhabilitation de mon frère innocent, et je suis en mesure de vous désigner le vrai coupable qui s'appelle le commandant Esferazzi. Le nom est imprimé pour la première fois. Alors maintenant, il y a eu l'affaire Dreyfus. Jusqu'à présent, personne n'en parlait. Il y a un tout petit groupe de gens, très très silencieux, en tenant l'état-major. Mais le 15 novembre 1997, toute la France, et bientôt l'Europe, va s'occuper de cette histoire. L'épreuve était donc là, puisqu'il y avait une ressemblance d'écriture flagrante entre l'écriture d'Esferazzi et l'écriture du Bordereau. Le journal Le Figaro, qui prenait fait et cause pour la vérité et pour la justice, avait même fait une affiche, 300 000 exemplaires dans les rues de Paris. Cette affiche comportait, elle est en deux parties, hein, deux parties parallèles. Alors d'un côté, il y avait une reproduction d'une lettre d'Esferazzi et une lettre, bien sûr, assez extraordinaire. Enfin, une lettre qu'il avait écrite autrefois en 1882 à une de ses maîtresses. Il s'était brouillé cette maîtresse parce qu'il lui avait escroqué 30 000 francs alors cette femme avait vendu le document au Figaro. Une lettre inouïe, écrite par un officier français, Esferazzi, lequel disait, ma joie, enfin, mon ambition, ce serait d'entrer un jour dans Paris à la tête d'un escadron de poulains. Vous savez, les hussards prussiens, quoi. Et de sabrer 100 000 parisiens. Ça avait pas mal d'allure de la part d'un officier français. Alors donc, cette lettre paraissait en facsimilé de Figaro, à la fille de Figaro, et de l'autre côté, le facsimilé de Bordereau. Tout le monde voyait l'identité des Dreyfus. Alors, les quelques amis de l'innocent, de Dreyfus, étaient tranquilles, enfin, ils disaient, quand ce type va partir en conseil de guerre, il ne peut pas ne pas partir en conseil de guerre, ben, sa condamnation est certaine, puisque l'identité des Dreyfus est là, tout le monde l'a vu. Ben, je crois que vous savez ce qui va se passer. Le deuxième conseil de guerre va se réunir le 10 janvier 1998. Il avait fallu 4 jours au premier conseil de guerre, celui de 1994, pour déclarer coupable l'innocent Dreyfus. Il ne faudra pas 48 heures au deuxième conseil de guerre, 10 et 11 janvier 1998, pour déclarer innocent le coupable, etc. L'état-major avait gagné. Alors les Dreyfusistes, comme on disait à ce moment-là, avaient les bras cassés, ils ne peuvent rien faire. Si, il y a quelqu'un qui a eu l'idée, un civil, Zola. Zola s'est dit, puisque c'est couru maintenant, c'est vu, quoi. Tant qu'on laissera cette affaire entre les mains de la justice militaire, la vérité sera étouffée. Alors il faut arracher de force cette affaire à la justice militaire. Il faut la traîner dans la justice civile, parce que là, on peut tout dire. Alors je vais me faire poursuivre, disait Zola. Et il a écrit cette fameuse lettre au président de la République qui s'appellera J'accuse, où il accuse nominativement les gens. Il dit J'accuse Mercier d'avoir commis une forfaiture. J'accuse le premier conseiller de guerre d'avoir condamné un innocent. J'accuse le deuxième conseil de guerre, le conseil de guerre de Esferazzi, d'avoir sciemment déclaré innocent un coupable. Et il ajoutait, Zola, et je sais parfaitement que c'est dans ce que je fais, je me place sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse concernant la diffamation, et c'est volontairement que je le fais, car je veux être poursuivi dans les assises. Boisdeffre est très ennuyé, Boisdeffre voit la manœuvre de Zola, Boisdeffre voit que Zola a imaginé d'arracher sa affaire au bureau militaire pour la passer dans un tribunal civil, alors pendant 6-7 jours, Boisdeffre va insister auprès du gouvernement pour dire ne poursuivez pas Zola. Pas moyen de ne pas le poursuivre, Zola a accusé l'état-major, enfin, crime de lèse-majesté, il faut qu'il soit poursuivi. Alors il sera poursuivi, il va passer en jugement à partir du 7 février jusqu'au 23 février. Et naturellement, l'armée s'est arrangée pour qu'il soit condamné, je pense, il sera condamné au maximum. 1 an de prison, 3 000 francs d'amende, mais il a gagné tout de même. Il a gagné parce que cette fois, la publicité des débats était ouverte. Parce que là, toute la presse en parlait. Et même, on peut presque dire la presse mondiale. Alors quand on voyait jour par jour les comptes rendus des débats, on s'apercevait que l'histoire qui était claire en apparence, mais elle n'était pas du tout. Et qu'il y avait toutes sortes de défenses pour que l'armée couvrit quelqu'un. Couvrit quelqu'un. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Quel était ses mystères? Qu'est-ce que c'était ses souterrains? Bon, l'armée, enfin la haute armée semble avoir gagné puisque Zola est condamné. Mais regardez ce qui se passe à ce moment-là. Il a été condamné le 23 février 1998. Le 1er avril 1998, le ministre de la Guerre prescrit au SR de refaire le dossier Dreyfus. Au cas où on ne sait pas, enfin, au cas où des civils mettraient le nez, au cas où il y aurait une révision, pour faire le dossier, il faut le remplir, ce dossier, vous savez, il était épique, il n'y avait rien. Il va devenir obèse, il aura maintenant 340 pièces, nous y reviendrons là-dessus. Et puis d'autre part, on voit les principaux meneurs de l'opération se retirer. On voit Henri, par exemple, le commandant Henri, qui était acharné à la culpabilité de Dreyfus, qui déclare à ce moment-là qu'il en a resté, au SR, qu'il voudrait aller dans une campagne, faire une campagne coloniale, enfin, c'est plus agréable, et puis, dans un langage que je vous ai à peine rapporté ici, il dit, oh, je ne veux pas rester au SR, on n'y a pas que des coups de pied, etc. Bon. Et puis d'autre part, voilà Gonz, général Gonz, vous savez, sous-chef, qui a des douleurs d'entrailles, il fallait sortir. Voilà. Et puis voilà Boisdeffre, qui a un 30-30, on en fait dans le dos, il dit, oh, bon, je souffre beaucoup, parce que je peux rester là aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas me nommer ambassadeur à Saint-Pétersbourg? Ils sont en train de partir. Alors, le nouveau ministre de la guerre, cette fois c'est un civil, il s'appelle Cavena, il décide de vider l'abcès, tout le monde parle de cette histoire de réfugiés. Et il dit, je vais déclarer à la tribune de la Chambre la vérité là-dessus. Et le 7 juillet 1998, Cavaignac va donner lecture d'une certaine pièce, le document écrasant, un document qui prouve la culpabilité de Dreyfus. Un document qu'on ne connaissait pas encore en 1994, mais qui était intervenu en 1996, au moment, vous vous rappelez, où Castelin, député, voulait faire une interpellation sur les manœuvres de la famille Dreyfus. Et paraît-il, on avait trouvé, enfin le SR avait saisi à ce moment-là, une petite lettre au crayon, écrite par l'attaché militaire italien, Panizzardi, à son collègue allemand, Schwarzkoppel, et la voilà, cette petite lettre, que Cavaignac va lire à la tribune de l'Assemblée nationale. Il va dire, mon cher ami, j'apprends qu'un député va interpeller sur Dreyfus. Cette fois, il n'est pas B, hein, il est Dreyfus. Si on me demande à Rome de nouvelles explications, je dirai que jamais j'avais eu de relation avec ce juif. Et si on vous demande, vous, de Berlin, dites comme moi, car il ne faut pas qu'on sache jamais personne ce qui nous est arrivé avec lui. Évidemment, c'est écrasant. C'est la phrase que Dreyfus était coupable. Ça, ça se passe le 7 juillet 1998. Le 30 août 1998. Le 30 août 1998. Henri, le lieutenant-colonel Henri, va avouer dans le bureau du ministre de la guerre que c'est lui qui a fabriqué le document, que c'est un faux. Alors il est incarcéré le soir du 30 août, le 31 août dans l'après-midi, à 6h du soir, quand on vient lui apporter sa nourriture, là où Mont-Valérien, pas moyen d'ouvrir sa porte, c'est barricadé, alors on enfonce la porte, et on trouve le colonel Henri étendu sur cette couchette, la gorge coupée, mort, et tenant un rasoir dans la main gauche, alors qu'il n'était pas gaucher. Madame Dreyfus immédiatement s'empare de l'affaire pour dire, eh bien, le seul document contre mon mari s'est écroulé, puisque Henri a avoué cette info, je demande la réhabilitation. Il faudra beaucoup de temps pour que la Chambre se décide et pour que la Cour de cassation se décide, mais elle se décidera. Si bien que le 3 juin 99, Dreyfus va être déclaré, enfin, on va casser la Cour de cassation, il va être déclaré prévenu, vous comprenez, prévenu, mais non plus condamné, puisque la Cour de cassation casse le jugement de 94. Il faut qu'il repasse son jugement devant le Conseil de guerre, un deuxième Conseil de guerre pour Dreyfus. Celui-là se réunira à Rennes, parce que l'opinion publique est tellement alarmée, est tellement alertée sur l'affaire Dreyfus que si ça se passe à Paris, il y aura peut-être des bagarres. Alors on a choisi Rennes, loin, Bretagne, tranquille. Un très long deuxième procès qui s'ouvrira le 7 août et qui se terminera le 9 septembre 1999. Mais le 9 septembre 1999, alors cette fois, les juges du Conseil de guerre vont se prononcer, oh, il n'y aura plus d'unanimité. Vous comprenez bien qu'ils ne vont pas démentir leur camarade, leur collègue, leur professeur. Mais enfin, ils se sont séparés. Sur les 7 juges, il y en a 5 qui reconnaîtront Dreyfus coupable, il y en a 2 qui diront qu'il est innocent. Alors finalement, Dreyfus sera recondamné, mais avec circonstances atténuantes. Et personne ne comprendra ce que peuvent être les circonstances atténuantes d'une trahison. En réalité, tout était combiné déjà avec le gouvernement et avec l'armée. On allait faire cette espèce de faux jugement de condamnation, parce que 10 jours plus tard, exactement le 19 septembre, le gouvernement va gracier Dreyfus. À la suite de cette grâce, va intervenir une amnistie, c'est-à-dire que tout fait connexe en rapport avec l'affaire Dreyfus sera amnistié d'avance, on n'en parlera plus, on passe l'éponge, c'est fini. Dreyfus est gracié, mais il n'est pas réhabilité. Et il veut être réhabilité. Il sera encore des années. C'est Jaurès qui va s'en occuper grâce au ministère Combes. En 1903, on reprendra le processus de réhabilitation. Deuxième déclaration de la Cour de cassation qui cassera en 1906 le jugement de 99, qui le cassera sans recours, sans report, c'est-à-dire il est cassé, donc Dreyfus est reconnu innocent, et le 12 juillet 1906, dans la cour de l'école militaire, là où Dreyfus avait été dégradé, et bien ce jour-là, devant 4000 hommes de nouveau, il sera décoré de la Légion d'honneur. L'affaire Dreyfus avait duré 12 ans. Nous avions vu l'autre jour une espèce de perspective générale de l'affaire Dreyfus. Maintenant, je voudrais regarder avec vous dans le détail, certains points intéressants. Première chose, le rôle de Mercier. Vous vous rappelez, j'ai expliqué que c'était extraordinaire de voir ce général Mercier, ministre de la guerre, qui s'était précipité sur l'affaire Dreyfus, qui avait décidé l'arrestation, qui avait ensuite décidé la condamnation, alors que Lucatus Flam, l'homme chargé de l'enquête, lui avait dit le 29 octobre, non, il n'y a pas moyen, on ne peut pas vous suivre, il n'y a rien. Alors essayons de comprendre, qu'est-ce qui s'est donc passé chez Mercier? Ben, il y a deux choses qu'il faut que vous sachiez. Il y en a une qui est banale, qui est courante maintenant, et une autre que l'on sait moins. Première chose, pourquoi est-ce que Mercier s'est si particulièrement intéressé à cette affaire? Voici. Quand on dit Mercier aujourd'hui, il n'y a pas longtemps encore, François Mauriac parlait de Mercier dans un éditorial, enfin dans un de ses bloc-notes, et semblait confondre le général Mercier avec ce qu'on appelle aujourd'hui un général activiste, un général d'extrême droite. En 1994, lorsque l'affaire va commencer, Mercier passe au contraire dans le ministère pour un général, comme on dit, de gauche, un général républicain. C'est très facile à ce moment-là de se faire passer pour républicain, il suffisait de pas aller à la messe. Alors un général qui ne va pas à la messe, il était républicain. En outre, je crois qu'il appartenait à la franc-maçonnerie. Alors, ce Mercier, dans l'équipe gouvernementale, il était détesté, vous savez, il était haï par la droite nationaliste. On cherchait à le faire tomber. Et pendant l'été de 94, je vous rappelle que c'est en septembre que l'affaire a commencé, pendant l'été de 94, Mercier avait été en but à des attaques forcenées des journaux nationalistes, en particulier parce qu'au milieu de l'été, il avait libéré par anticipation 12 000 hommes du contingent. C'est pas énorme, 12 000 hommes. Mais alors, les journaux nationalistes en avaient pris prétexte pour dire, dégarnir la frontière, il est d'accord avec l'Allemagne, c'est un trait. Et il était très embêté, merci, il voulait conserver son portefeuille, en fait c'est très humain. Et le ministère lui-même, le ministre, en fait Dupuis, n'avait pas envie de voir son ministre de la guerre renversé parce que tout le gouvernement était par terre, son ministre était jeté par terre. Alors Mercier cherchait tous les moyens de trouver sa situation parlementaire. Et quand, en septembre, le SR lui apporte comme sur un plat d'argent, c'est l'histoire d'un officier juif qui est un traître, mais qui se jette là-dessus, peut-être avec bonne foi, en se disant, mais ça va me valoriser du côté de la droite, en s'insistant qu'ils nous épaissent, ils vont dire, oh, on a des torts de le détester, il est très bien, il a beau être franc-maçon, enfin, lorsqu'il s'agit d'un juif qui a trahi, il n'hésite pas. Bon, alors, c'est à partir de ce moment-là que Mercier s'est dit, je vais sauver ma situation parlementaire, si je peux arriver à faire condamner voici. Pas très grave, n'est-ce pas, pas très grave, si Mercier est réellement convaincu de la culpabilité de Dreyfus. Et c'est ce qu'on dit encore beaucoup aujourd'hui. Dans un livre très remarquable, je l'assure, hein, c'est un livre très bien fait, de M. Marcel Thomas, qui a paru un an avant le mien, qui s'appelle « L'affaire sans Dreyfus ». Thomas dit, oui, Mercier a fait ça parce qu'il avait sauvé son portefeuille, mais en fait, il était convaincu de la culpabilité du capitaine. Je peux vous dire, et je peux vous affirmer, je peux vous prouver, que le général Mercier savait parfaitement que Dreyfus était innocent. C'est une accusation très grave, et je porte cela, il faut que je la justifie tout de suite. Mais je vais vous donner deux indications. La première est déjà intéressante, mais n'est pas décisive, et la deuxième est décisive. Première indication. Rappelez dans le dossier secret qu'il a communiqué exclusivement au juge sans que Dreyfus puisse en avoir connaissance et sans que son avocat, Domange, en eut davantage connaissance. Qu'est-ce qu'il y avait dans le dossier secret? Il y avait une certaine petite pièce, une lettre, piquée par le SR, et une lettre qui était de Schwarzkopf à Panizardi, l'attaché militaire allemand à l'attaché militaire italien, disant, vous vous rappelez, 6 juin 10, quand le directeur de Nice, que ce canaille de D m'a remis à votre attention. Canaille de D. Et D, Mercier disait, c'est vrai. Mais il avait une autre pièce entre les mains, Mercier, une pièce qu'il a cachée au juge militaire. Cette pièce établissait que le nommé D en question, on saura plus tard que c'était un Dubois, c'était cartographe à l'armée. Ce nommé D touchait 20 francs par son directeur. Alors tout de même, si Dreyfus avait trahi, Dreyfus était riche, ben, il aurait arrivé pour une somme un peu supérieure à 20 francs qu'il aurait pris de temps en temps. Ça, c'était le fait visiblement d'un petit espion, d'un petit traître besogneux. C'est pas une preuve décisive. Voilà la preuve décisive. Le 1er novembre 1994, les journaux de Paris donnent pour la première fois le nom de l'officier arrêté. On savait qu'à un certain temps qu'il y avait un officier arrêté, on ne connaissait pas le nom. Alors c'est le 1er novembre, à la fin de l'après-midi, quand les journaux de l'après-midi paraissent, vous savez, comme le monde aujourd'hui, c'est ce jour-là, en fin d'après-midi, que le nom Dreyfus est répandu dans le public. Alors immédiatement, l'attaché militaire italien Panizzardi envoie une lettre par valise, c'est fait par valise diplomatique, ça personne ne peut les voir. Il envoie une lettre par valise à son gouvernement, à Rome, et il explique, et il dit, ben nous étions fort inquiets, les Allemands et nous, parce qu'évidemment on a des hommes en France, on a des traîtres à notre service. On est inquiet en se disant, qui est ce Français sur lequel les services français ont mis la main? Maintenant, nous sommes rassurés, ils se trompent, ils ont mis la main sur un nommé Dreyfus que nous ne connaissons absolument pas. Bien, mais ça, cette lettre est secrète, personne ne la connaît, Panizzardi envoie ça par valise son gouvernement. Le 1er novembre au soir. Mais dans la nuit, Panizzardi réfléchit et se dit, j'ai dit à mon gouvernement que nous sommes sans rapport avec ce nommé Dreyfus, mais après tout, si l'affaire est énorme, si c'est une trahison considérable, si c'est un officier est bien renseigné, qui envoie des informations à l'Allemagne et par conséquent à l'Italie, tout ça m'a fait passer par-dessus la tête. Les attachés militaires, vous savez, ça peut être des personnages importants, ça arrive qu'ils sont court-circuités par leur service. C'est-à-dire que Panizzardi se dit, peut-être bien que Dreyfus était en rapport directement avec Berlin, directement avec Rome aussi, par-dessus la tête de Schwarzkopf, c'est par-dessus ma tête à moi l'Italie. Alors le 2 novembre, Panizzardi envoie un télégramme à son gouvernement. Un télégramme chiffré, bien entendu, un télégramme qui va arriver en somme en même temps que la lettre envoyée par valise. Et dans ce télégramme, il dit à son gouvernement, si vous n'avez pas plus que nous ici à Paris, si vous n'avez pas de rapport avec Dreyfus, alors il serait bon que vous avertissiez notre ambassadeur, l'ambassadeur italien à Paris, qui s'appelle Tornielli, pour lui permettre de faire un télégramme officiel, une déclaration officielle, mettant l'ambassade d'Italie à l'abri des commentaires de presse. La lettre de valise, je vous le répète, personne ne l'a connaît. Mais le télégramme, il est envoyé par un bureau de poste. Il est chiffré, c'est entendu. Enfin, c'est la poste française qui l'envoie. Vous savez ce qui se produit, enfin, dans tous les cas, lorsqu'un télégramme est remis comme ça, eh bien, il est expédié, la poste fait son métier. Mais les services des affaires étrangères prennent copie du télégramme. Il est chiffré, on va s'arranger pour le déchiffrer. En effet, on va le déchiffrer. Et ce télégramme déchiffré, bon, je vous rappelle le sens, je vous rappelle la teneur. Si vous n'avez pas eu plus que moi de rapport avec la justice, il serait bon que vous autorisiez votre ambassadeur à faire un démenti public. Ce télégramme, qui a été saisi, enfin copié par les affaires étrangères, est mis sous les yeux de Mercier. Ben, ce télégramme, qu'est-ce qu'il établit? Il établit que Panizzardi n'a jamais entendu parler de Dreyfus. Alors comment est-ce que Mercier peut oser faire croire au juge militaire que D, c'est Dreyfus, alors qu'il sait parfaitement que D n'est pas Dreyfus? Et Mercier aura bien soin de dissimuler ce télégramme. Le télégramme ne sera pas mis dans le dossier Dreyfus, parce que la seule existence de télégramme prouvait que Dreyfus était innocent, du moins du côté des Italiens. Et bien Mercier cachera cela. Histoire très grave, encore pas très admise aujourd'hui, mais je ne vois pas comment on ne peut pas l'admettre, après l'histoire du télégramme du 2 novembre, celle que je viens de vous l'expliquer. Voilà pour Mercier. Je voudrais vous parler brièvement, très brièvement, de Henri. On a beaucoup cru que Henri, qui avait fait le faux, que vous savez, et c'est un homme qui était peut-être en cheville avec Espéradier, qui était lui aussi un prêtre. Zola l'a cru, par exemple. Lorsque Zola, juste avant de mourir, fait son livre qui s'appelle Vérité, qui est une transposition romanesque de l'affaire Dreyfus, le personnage que dans son roman il a chargé de représenter Henri, l'a représenté comme un prêtre. Ce n'est pas vrai. Zola se trompait. Joseph Reynac, qui a fait une affaire, se trompait. On sait aujourd'hui que Henri n'était pour rien dans cette histoire, mais qu'est-ce que c'est qu'Henri? Henri, c'est un officier discipliné. Avant tout, discipliné. Il a son idée sur l'affaire Dreyfus. Et nous savons qu'il l'a parce qu'on possède une lettre de lui à Picard, lorsque Picard était à Sousse, vous vous rappelez, quand il a commandé son 6e régiment de tirailleurs à Sousse, une lettre où il lui dit carrément « Je pense comme vous sur le fond des choses. Je sais parfaitement à quoi mentir. » Mais n'oubliez pas, mon cher ami, que les chefs, quand ils commandent quelque chose, quand ils veulent quelque chose, c'est les chefs. Alors il faut obéir. À ce propos même, il rappelle à Picard une conversation qu'il avait eue avec lui. C'est une chance que nous possédions cette lettre. Il lui dit « Vous rappelez, mon cher Picard, il ne lui parle pas ici de subalterne à chef, il lui parle d'amis, amis, de collègues, à collègues. Vous vous rappelez un jour, quand je vous avais raconté quelque chose, et vous m'aviez dit que je parlais d'or. Mais qu'est-ce qu'il lui avait raconté? On sait ce qu'il lui avait raconté. Un jour, Henri avait dit à Picard, quand j'étais aux Zouaves, ça fait longtemps, quand j'ai début de sa carrière militaire, quand j'étais aux Zouaves, il est arrivé dans ma compagnie une sale histoire. Il y avait un jeune soldat qui avait volé dans la caisse. Alors le lieutenant, qui s'était aperçu que ce type avait volé dans la caisse du régiment, a voulu faire passer le jeune soldat en conseil de guerre. Et nous, on lui disait, faites pas ça, vous savez pas qui c'est, le jeune soldat, mais c'est le fils d'un colonel. Alors vous savez, se mettre mal avec un colonel, c'est dangereux. Alors la suite de l'histoire, celle que l'a raconté Henri, c'est comme ça, le lieutenant n'a pas voulu nous écouter, il a fait passer le jeune soldat en conseil de guerre, et bien sa carrière a été complètement flambée. Alors oui, Picard, faut pas faire ce que vous faites, parce que vous vous mettrez mal avec les chefs. Lorsque Henri va fabriquer son faux, et qu'il expliquera pourquoi il l'a fabriqué devant le ministre de la guerre. Il dira, mes chefs, c'est-à-dire Boisdès, Gonce, mes chefs étaient très inquiets. Ils n'avaient rien dans le dossier contre Dreyfus. Alors comme ils n'avaient rien, j'ai mis quelque chose. Je sentais que mes chefs étaient inquiets, je les ai tirés d'en bas. Voilà tout. L'histoire d'Henri, c'est pas plus ça. C'est le serviteur exemplaire. C'est le gaillard qui dit, les chefs veulent quelque chose, on obéit, on doit faire plaisir aux chefs. Picard, c'est une autre histoire. Picard porte aujourd'hui encore une auréole. Quand on vous parle de l'affaire Dreyfus, on vous dit, oh, la plupart des gens dans l'armée ont été pas très bien, mais Picard, je demande à voir, ça n'est pas facile tout à fait comme ça. Vous avez vu que Picard découvre que Esterhazy est l'auteur du bordereau, il le découvre en mars ou avril 1996. Il va attendre jusqu'au mois d'août, vous entendez, jusqu'au mois d'août, avant de parler de sa révélation. Parce qu'il est renseigné sur Esterhazy, parce qu'il sait que Esterhazy a des protections militaires considérables. Quand il décide d'en parler, vous avez vu qu'il l'arrive. Les deux chefs, Gonce et Boisdès, sont furieux contre lui, et en réalité, il y perd sa situation. Alors pourquoi est-ce que brusquement, Picard, le 21 juin 1997, va, si je puis dire, manger le morceau et va raconter à son avocat Le Blois toute la fin de l'histoire? Pourquoi? Parce qu'il a reçu, fin mai 1997, à Sousse, l'archive du ministère, une lettre horrible. Une lettre où il est qualifié de menteur. Une lettre où il sent que sa propre situation militaire est menacée. Alors quand il va trouver Le Blois, c'est pour lui dire, je vais peut-être avoir moi une sale histoire, où ma carrière est en jeu, alors s'il faut que je me battrai, mais attention mon cher Le Blois, attention, c'est moi Picard qui suis en cause, c'est pas Dreyfus, ça Dreyfus je m'en balance, ma situation. Alors Le Blois est extrêmement ennuyé, je vous ai raconté, j'ai dit que Le Blois, à qui Picard avait interdit de parler de sa conversation, Le Blois dit, mais je ne peux pas garder un pareil secret, il y a un homme là-bas, un malheureux, qui est allé du diable, qui est au bagne depuis 2 ans, et Picard lui-même est indifférent. Alors vous savez que Le Blois va trouver Sora Skatner et va essayer d'approcher l'histoire. Ferrer naturellement a besoin de documentation. Et Picard refuse de donner toute documentation. Ça ne veut pas se mouiller. Ça ne fut même pas en cause, pas question qu'il fournisse le moindre renseignement. Alors je vous apporte là une petite lettre, enfin un fragment de lettre de Schurer Kestner à Le Blois du 1er août 97, où Schurer dit à Le Blois, il est impossible d'admettre qu'un honnête homme garde un pareil secret et laisse ainsi un innocent subir de telles souffrances et un tel déshonneur sans bouger. Il faut savoir que Picard est quelqu'un de très attentif à sa carrière. J'ai trouvé dans la Gazette de Lausanne, d'avril 1906, la révision est presque terminée, celle qui est en juillet que Dreyfus va être réhabilité, l'affaire se termine. En avril 1906, Picard écrit un article dans la Gazette de Lausanne pour dire cette vieille affaire Dreyfus, bah, elle va se terminer. Il y a des tas de gens qui se sont sucrés dans cette affaire, les juifs en particulier, dit-il. Il y a deux juifs maintenant qui sont sous secrétaire d'État. Oh, ceux-là, ils sont défendus. Est-ce que les gens courageux, les gens propres, vous entendez-moi, ils n'ont rien. Alors, s'il essaie de se faire sans la main, qu'il y ait ma récompense. C'est entendu, il aura sa récompense. Lorsque Clemenceau sera au gouvernement, il fera de Picard immédiatement un général et même un ministre de la guerre. Dernier détail sur Picard, détail qui a été fourni par Joseph Renac, et j'ai bien envie de vous le dire parce qu'il qualifie le personnage. C'est le rapport d'un capitaine Tassin, sur la dégradation de Dreyfus. Ce capitaine Tassin, le 5 janvier 95, quand on dégrade Dreyfus, était à côté de Picard dans la cour de l'école militaire. Et il va rapporter ce que Picard lui a dit. Ce Tassin, pour qu'elle ait une idée personnelle, je pense qu'il pensait de Dreyfus, et Tassin avait été tout de même ému de l'allure qu'avait Dreyfus quand on lui arrachait ses galons et ses boutons. Et il avait dit à Picard, qui était à côté de lui, regardez-le tout de même, à quel point il est stoïque, il est là, livide, il a la main sur la couture du pantalon, comme un soldat, il a des yeux baissés, il regarde par terre. Et Picard, ce canon lui avait dit, écoutez, vous oubliez l'essentiel. C'est un juif. Il regarde par terre. Pourquoi? Mais parce que c'est les galons qui sont par terre. Les galons se mettent en argent, alors ils comptent 10 cm avec un centime, etc. Voilà ce que Picard avait pensé lors de la dégradation de Dreyfus. Alors quand on reparlera de l'héroïsme de Picard, de la grandeur d'âme de Picard, ben je demande à qu'on reparle. Je vais maintenant vous parler de la protection, de l'extraordinaire protection que la haute armée, enfin l'état-major, a accordée à Esterhazy, dont on savait parfaitement que c'était une fribouille. Cette protection est allée très loin, et on le sait aujourd'hui. Il y a un moment où Esterhazy va écrire des lettres au président de la République. Lui, c'est un officier, il est major d'infanterie, il écrit au président de la République. Ben, nous savons que ces lettres lui ont été dictées par du Babislam, c'est-à-dire dictées par l'état-major. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces lettres au président de la République? Il y avait un chantage. Il y avait une incroyable menace faite par un officier au président de la République, disant, j'ai entre les mains un document. Il disait que c'était une femme voilée qui lui avait remis. En réalité, c'était un document qui lui venait du SR, sous enveloppe fermée. J'ai un document, disait-il, monsieur le président de la République, un document tel que si jamais je le publie, c'est un casus belli, c'est un cas de guerre entre la France et l'Allemagne. Eh bien, monsieur le président de la République, si vous ne me couvrez pas, si vous n'empêchez pas que mon nom soit prononcé, car ces lettres sont du début de novembre 97, vous vous rappelez que c'est le 15 novembre 97 que l'affaire va exploser. Monsieur le président de la République, disait Esterhazy, si vous n'intervenez pas, si vous ne faites pas taire le Schurer Kestner, si vous n'empêchez pas que mon nom soit prononcé, la publie cette lettre. Vu la guerre en sortir. Bah, écoutez, supposez qu'aujourd'hui, un officier écrit au président de la République, enfin, en lui disant, j'ai un document qui est susceptible de faire éclater la guerre entre la France et la Russie, par exemple. Bah, vous commencez que le président de la République hésitera un instant, mais il serait appréhendé l'officier, sous grand président, et puis le Zanimo va se papier. Mais pas du tout. Pas du tout, le ministre de la guerre ne bouge pas, le président de la République non plus. Simplement, on convoque très gentiment Esterhazy devant le gouverneur militaire de Paris, qui est un de ses amis du reste. Il s'appelle le général Saussier. Puis Saussier lui dit, écoutez, vous avez écrit une lettre, on ne sait pas comme ça, le président de la République, il me semble que vous avez été maladroit. Vous devriez, ça serait gentil à vous, vous devriez remettre le document. Esterhazy finira par remettre le document, parce que c'est le document qui sort du SR, le SR a besoin de le récupérer, et le 15 novembre, le document sera restitué. Esterhazy, quand il va passer un conseil de guerre, vous pensez que c'est lui comme ça qui va tout seul en conseil de guerre? C'est le général de Boisdef. Il lui a dit, je crois que ce serait mieux que vous alliez en conseil de guerre parce qu'une fois qu'il y aura jugement sur vous, il y aura, comme on dit en termes juridiques, vous savez, res judicata, la chose jugée. Et puis il y a une formule qui est en latin qui dit, res judicata pro veritate habitur. La chose jugée doit être tenue pour la vérité. Par conséquent, tant que vous n'aurez pas passé un conseil de guerre et que vous ne serez pas acquitté, parce que les tranquilles vous seraient acquittés, tant que vous ne serez pas acquitté, vous risquez quelque chose. Mais une fois que vous aurez passé un conseil de guerre et que vous serez acquitté, alors vous serez tranquille pour le reste de vos jours, vous êtes blanchi à jamais. Monsieur Thomas a apporté un détail nouveau là-dessus dans son livre, si important, il y a 3 ans. Dans l'acte d'accusation, il y avait, est accusé par M. Dreyfus, est accusé d'avoir, en 1894, fourni des documents à l'Allemagne. C'est vrai qu'il en fournissait en 94, mais il en fournissait encore au début de l'année 95. Alors, aux archives de la guerre, où on avait conservé l'acte d'accusation, une main bénévole et intelligente a gratté dans l'acte d'accusation les mots en 1894. Parce que tant que s'il me restait, et que Razine n'était couvert que pour les 1794, mais si quelqu'un, M. Dreyfus par exemple, lui avait fait un nouveau procès, disant qu'en 95, il fournissait des documents à l'Allemagne, alors il n'était plus couvert. Tandis que si on grattait, qu'il n'y avait plus de date, c'est couvert à perpétuité. Maintenant, avant de finir, il faut que je vous montre quelques détails sur le fameux nouveau dossier. Peut-être vous vous rappelez la dernière, que je vous ai dit que le 1er avril 1998, le ministre de la Guerre, Billot, inquiet, se disant, c'est entendu, Zola a été condamné, mais enfin, peut-être, sera révision de l'affaire Dreyfus, il avait donné ordre que l'on reconstituât, que l'on refit le dossier de Dreyfus. Je l'ai tout examiné, le dossier, quand je travaillais aux archives nationales. Il est monumental, je l'ai dit, il y a plus de 300 pièces. Autrefois, il y en avait 5, c'est pas rien. Plus de 300. Alors là-dedans, il y a des choses étonnantes. On y fait la découverte suivante. J'ai lu, mes yeux. Le petit bleu, on va dire que le petit bleu, c'était cette pneumatique, quoi, sur lequel toute l'affaire s'était redéclenchée, la lettre, le pneu, qu'avait écrit Schwarzkopf à Eterni. Ce pneu avait été pris par les SR, et c'était là où il y avait, j'ai besoin d'avoir de vous des explications écrites pour savoir si je suis continuer ou non mes relations avec la maison R. Alors, ce petit bleu existait, bien recollé, bien reconstitué dans les archives de la guerre. Quelqu'un, on sait qui maintenant, c'était le collaborateur d'Henri, c'était le commandant, l'autre chef de bataillon, l'autre, non, chef d'escadron, c'était un cavalier, chef d'escadron, l'autre, LAUTH. L'autre avait une idée assez géniale, il avait pris cet original du petit bleu, et il avait gratté le nom Esperadi. Le grattoir était très en usage, vous savez, dans les services spéciaux. Alors il avait donc gratté le nom, puis il avait refait le même nom par-dessus, Esperadi. De telle sorte que si les enquêteurs voulaient voir les pièces, et si on leur montrait le petit bleu original, les enquêteurs civils auraient dit, mais c'est une pièce truquée, vous voyez bien qu'il y a écrit Esperadi, mais c'est écrit sur un grattage. Par contre, le nom qui était dessous n'était pas le nom d'Esperadi quand on a représenté le même temps. De telle sorte que c'était une astuce très bien, très intelligemment, qui est très diaboliquement conçue, pour ôter toute valeur probante à cette pièce, puisqu'on faisait croire qu'elle n'était pas originairement destinée à Esperadi. Il y avait de très beaux documents dans ce nouveau dossier. Il y en a une, je tiens particulièrement à vous parler, il faut que j'aille vite, mais je vais vous dire ça en particulier. On avait cherché naturellement dans les archives du SR tout ce qu'on pouvait trouver contre Dreyfus. On avait trouvé une pièce qui était décrite par Panizzardi, l'attaché militaire italien, à Schwarzkopf, l'attaché militaire allemand, le 28 mars 1995. Et ce 28 mars 1995, l'italien disait à l'allemand, je vais avoir bientôt l'arrangement du réseau français, du réseau ferroviaire, en cas de mobilisation. Très intéressant ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fît d'une pièce du 28 mars 1995, alors qu'en 1995, Dreyfus était à l'île du Diable. C'est pas lui qui pouvait donner les renseignements sur les chemins de fer français en cas de mobilisation. On ne pouvait rien en faire, mais si on était intelligent, on pouvait en faire quelque chose. Henri déchire le coin de cette lettre, où il y avait la date, 28 mars 1995, fait disparaître la date. Et de son écriture, on voit sur la pièce, il est avril 1994. Alors on peut mettre cette pièce dans le dossier comme si elle était d'avril 1994 et comme si elle pouvait concerner Dreyfus. Autre chose, on l'avait trouvé encore dans les papiers de l'état-major, en fait, du SR, on avait trouvé une lettre de mars 1994, elle-là. C'est une bonne date, 1994, puisque l'affaire Dreyfus est 1994. Et il y avait, c'était toujours Panizzardi qui écrivait à Schwarzkopf, il lui disait, je suis un peu malade, je regrette, je ne peux pas aller vous voir, mais vous, venez donc me voir, vous ne perdez pas votre temps dans la visite, car P, majuscule, P, m'a remis pas mal de choses intéressantes. P, c'est pas vrai. Oh, mais du moment que la lettre est écrite au crayon. Alors on gomme, c'est Henri qui fait le travail. On gomme P, on met D par-dessus, car D m'a fourni pas mal de choses intéressantes, et comme c'est une pièce de 94, hop, elle est dans le dossier, c'est une pièce de plus qu'on trouve ici. Et puis il y a eu cette merveille de la pièce 44, enfin ce chiffre m'est resté, parce que je me rappelle que j'ai eu le souffle coupé lorsque j'ai lu aux archives nationales, je suis tourné moi à mes pages pour voir tous ces documents du nouveau dossier. La pièce 44, c'était le télégramme Panizzardi, le télégramme du 2 novembre, le télégramme par lequel Panizzardi disait, moi je ne connais pas la suite, mais peut-être que vous le connaissez. Et vous vous rappelez que ce télégramme, on l'avait soigneusement caché. Mercier l'avait dérobé au juge. Tout à coup, en 98, il reparaissait ce télégramme qui dit, tiens, c'est curieux, il décide à le mettre en avant. Alors écoutez bien, voilà le texte du télégramme que l'armée prétend avoir été envoyé par Fanny Zardy le 2 novembre 94. Télégramme envoyé par la régime militaire pour établir son gouvernement le 2 novembre 94, puis une note de Gonse, reconstituée de mémoire par le lieutenant-colonel du Patit Clark. Le vrai texte, on va rappeler le vrai texte, si vous n'avez pas eu plus que moi de rapport avec Dreyfus, etc. Eh bien, le texte qui était inséré dans le dossier 98, comportait « Gouvernement français à la preuve de révélation offerte à l'Allemagne par Dreyfus, aucune inquiétude à avoir, notre émissaire est prévu. » C'était un faux, mais mot à mot un faux. L'armée était à ce moment-là, n'était pas très délicate pour l'usage des faux, et l'avait établi dans le dossier. Bien entendu, on avait été obligé de retirer du dossier la pièce majeure, la pièce massue, dès le jour où Henri avait avoué que c'était une pièce forgée. Enfin, je voudrais vous apporter comme dernier enseignement là-dessus, ce qu'on appelle une preuve morale. Boisdev et les officiers d'état-major s'étaient adressés à tous les généraux possibles pour leur dire. Ceux qui ont été entre vous qui ont été en rapport avec Dreyfus, donnez-nous donc notre avis, bien ça fera autant de documents dans le dossier. Alors Boisdev s'était adressé au directeur de l'école de guerre, par laquelle Dreyfus avait passé. Dreyfus était allé en 91-92. Ce général s'appelait Lebelin de Dionne. Alors gentiment, Lebelin de Dionne va faire le coup de ménage sur Dreyfus qu'on lui demande, puisque son ami Boisdev le désire, et il va lui envoyer le 1er juin 98, petite note sur Dreyfus. Mais il a oublié le Lebelin de Dionne, il a oublié qu'il y a les registres de l'école de guerre. Alors, si on se reporte au registre de l'école de guerre, on voit ceci, 1892. Conduite du capitaine Dreyfus, très bien. Tenue du capitaine Dreyfus, très bien. Observation générale, signée le Lebelin de Dionne, très bon officier, très apte au service de l'état-major. Ça, 1892. Alors, je vous prie d'écouter ce que le même Lebelin de Dionne, le 1er juin 1998, écrit à Boisdev sur le compte de Dreyfus. Le sieur, Dreyfus, a été sous mes ordres à l'école de guerre. Ses manières haineuses décassantes, ses propos inconsidérés, sa conduite privée fâcheuse, lui retirait toute estime de ses camarades et de ses chefs. Voilà de quoi a été composé le dossier anti-Dreyfus de 98. Dernière observation. J'ai dit l'autre jour que dès que Dreyfus a été gracié, une amnistie générale a été établie. C'est-à-dire, toute affaire, connaître, ça fait se rattachant de près ou de loin à la sœur Dreyfus, c'est fini, on passe les ponts, je n'en parle plus. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Ça voulait dire, Dreyfus, on va vous le rendre, votre petit juif, à l'état de neuf, ou presque, enfin, on vous le rend. Mais ne nous ennuyez pas avec la punition des coupables. Ça, les coupables, tabou, jamais on n'y touchera. Amnistie, d'abord. Ce qu'a fait dire à un écrivain français qui s'appelle Julien Binda, lorsqu'il a appris la nouvelle de l'amnistie, c'est qu'il lui a fait écrire dans un article de la revue Blanche ceci. Depuis 5 ans, on nous affirme que nos généraux sont insoupçonnables, et maintenant, on s'empresse de les amnistier d'avant. De ce troisième entretien, et dernier, sur la Dreyfus, je voudrais vous montrer ce que cette affaire comporte aujourd'hui encore de souterrain, de mystérieux, de pas clair. Et nous allons partir d'une déclaration qui a été faite par un monsieur qui n'était pas n'importe qui, c'est le président du conseil, qui s'appelait Dupuis, lorsqu'il a été convoqué devant la Cour de cassation le 26 décembre 1998. Dupuis, c'est pas n'importe qui, c'est un président du conseil, un homme qui doit mesurer ses paroles, et il a prononcé les mots que voici. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que cette affaire Dreyfus est une énorme mystification. Et ce mot de mystification va être employé par un autre personnage d'importance, qui s'appelle Poincaré, qui lui aussi en 98 parlera de mystification. Alors pourquoi? Premièrement, c'est le bordereau. Rappelez, le bordereau, c'est une pièce, paraît-il, trouvée dans la pièce à papier de la machine militaire allemande et apportée au SR. Bordereau, il n'est pas daté, mais c'est dans les derniers jours de septembre 1994 qu'il arrive entre les mains des SS. C'est septembre 1994. Depuis 1931, nous avons un document considérable. Ce sont les carnets de Schwarzkoppen. L'attaché militaire allemand Schwarzkoppen tenait des carnets de notes très bien à jour. Par exemple, on y voyait qu'à la date du 1er juillet 1994, il avait vu arriver en civil dans son bureau quelqu'un qui lui a dit « Je suis dans l'officier français, je m'appelle Esteraldi, je suis en mesure de vous fournir des documents si vous les payez bien. » Sur mon pays. Parce que Ben lui avait dit, mais alors quoi, vous êtes un trade, oui, monsieur, je suis un trade, ici, je suis un homme abominable, après j'ai besoin d'argent. Si vous donnez 1000 francs par document, et 1000 francs, ça fait le pouvoir d'achat aujourd'hui quelque chose comme 4000, hein, et ben je vous donnerai des renseignements. Parce que Ben avait fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il avait demandé au bureau berlinois, est-ce que je peux faire confiance, et le bureau de Berlin avait dit, on ne sait pas, vous voyez, et il avait obtenu des indications très importantes, comme ça, peu à peu, des choses. Bon. Alors c'est en c'est le 1er septembre 94, d'après les documents de 1931, d'après les carnets de Schwarzhofen, c'est le 1er septembre 94 que Schwarzhofen, dans son bureau, suivez-moi bien, dans son bureau, a extrait devant lui, qui lui remet un certain nombre de documents. Quel document? Une note sur le train hydraulique du Fendincourt, le manuel d'artillerie de campagne, la note sur la formation d'artillerie modifiée. Or, si vous prenez le bordereau, vous voyez qu'à cette date mystérieuse du bordereau, précisément, il y avait trois de ces fournitures qui étaient faites. Alors, je vous demande, et je me demande réellement, où on peut placer le bordereau. Je répète, le 1er septembre 1994, face à face, Schwarzkopf et Herzeradi, il est dans son bureau, il lui remet trois de ces documents. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le bordereau? Ben, vous savez, j'ai l'honneur de vous envoyer, si je vois, un certain nombre de documents, parmi lesquels il y a les trois en question. Alors, qu'est-ce qu'on en fait du bordereau? S'il est antérieur à la visite du 1er septembre, alors le 1er septembre, il n'a pas à lui remettre ce document, puisqu'il s'en joint au bordereau antérieur. Donc, il ne peut pas être antérieur. Il ne peut être que postérieur. Alors, s'il est postérieur au 1er septembre, comment ça se fait que ce jour-là, 1er septembre, il lui a remis trois documents, et qu'il lui annonce ensuite, j'ai l'honneur de vous envoyer, si je vois, les trois documents suivants. Vous voyez bien qu'il est implaçable, le bordereau. Chronologiquement, historiquement, il n'y a pas moyen d'en faire rien. Parce que c'est une pièce suspecte. Deuxième observation, les notes qui accompagnaient le bordereau. On a le bordereau, mais on n'a pas les notes. Notes sur le frein, du 120, notes sur le corps de civil, on les a pas. Alors, M. Thomas, qui a fait ce livre aussi intéressant, je vous l'ai dit il y a 3 ans, ça va faire vrai, a une idée. Et il dit, à la vérité, Ferradi, ce n'est pas un véritable traître. Et Ferradi, c'est surtout un escroc. Les notes que nous ne possédons pas, ça devait être des ragots qui Ferradi avait examinés à droite et à gauche en faisant parler des officiers spécialisés, en lisant des revues militaires, il en faisait un petit peu pour et il vendait ça le plus cher possible aux Allemands. Un escroc, quoi, il vendait des choses qui ne valaient rien. Je ne peux pas accepter une série comme celle-là. Parce que si on peut admettre que Schwarzkopf ne connaissait pas la valeur des notes qu'on lui remettait, qu'est-ce qu'il était là-dedans, Schwarzkopf? Ben, il était une boîte aux lettres, un caisson, et pas plus. Une boîte aux lettres, quand ce n'était à Berlin, c'est qui il payait. Les services de Berlin, les services d'espionnage de Berlin, ce n'est pas des enfants de fer qui les constituaient, ce n'est pas des analphabètes. Alors quand ils recevaient les notes de Ferradi, je vous assure qu'ils les sous-pesaient, ils les examinaient, ils les recoupaient, pour voir si c'était du sérieux. Or, on voit dans ce carnet de Schwarzkopf, publié en 1931, on voit que les bureaux de Berlin, après avoir bien étudié les documents de Ferradi, félicitaient Schwarzkopf. Et ils allaient continuer. Nous avons là les renseignements de première importance. Par conséquent, ces documents de Ferradi sont des documents capitaux et précis. Qui est Ferradi? Je viens de vous le dire, c'est un officier d'infanterie. Un simple officier d'infanterie. Il n'est pas d'état-major. Pas pour un tuer, il n'a pas ses entrées au ministère de la guerre. Alors comment fait-il pour être aussi bien informé? Il envoie à l'Allemagne des renseignements qui sont connus d'une pincée de gens. Enfin, il y a peut-être 8-10 personnes, pas plus, en France qui le savent. Et lui le sait. Donc, il a un fournisseur. Donc, Ferradi est un homme qui ne travaille pas tout seul, mais il est abouché à je ne sais quelle source de laquelle il obtient ses documents de première importance. Troisième remarque. La protection de Ferradi, je l'ai raconté la semaine dernière. C'est monstrueux, hein, c'est impensable. C'est vraiment que l'état-major lui-même qui guidait les pas de Ferradi, qui disait vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et l'état-major savait que Ferradi était une fripouille, et même un traître. Alors c'était de gaieté de cœur que l'état-major soutenait un traître. Il faut comprendre, il y a une raison. Pourquoi l'état-major a-t-il soutenu une fripouille pareille? Eh bien ça, alors c'est un document nouveau qui nous a été procuré par M. Thomas. À la date du 18 octobre 97, suivez bien, 18 octobre 97, on sait déjà que Sera Kessner s'agit, qu'il va trouver des vidéos, que Sera reconnaît le secret de Ferradi, mais le nom n'a pas éclaté. À la date du 18 octobre 1997, le général Gonz, sous-chef de l'état-major général de l'armée, réunit dans son cabinet ce qu'on pourrait appeler un petit conseil de guerre. Il y a là, lui, naturellement, il préside, il y a Henri, il y a du Petit Clam, il y a l'autre, je crois. Et il leur dit, il y a une histoire terrible qui va éclater, on va mettre en cause le nommé Ferradi, il faut absolument que ça ne se produise pas. Parce que, alors c'est là le document important, parce que si jamais cet Ferradi perd la tête, virgule, ce sera terrible. Voilà le mot que Gauss a prononcé. Ce sera terrible si Ferradi perd la tête, qu'est-ce que ça peut vouloir dire une parole comme celle-là? Ça peut vouloir dire que si Ferradi est poursuivi, s'il est traîné en justice, il va dire ce qu'il ne faut absolument pas dire. Il va donner sa source. Et la source doit être un tel nom que ce nom ne doit jamais être prononcé. Voilà pourquoi l'état-major va couvrir jusqu'au bout, etc. Quatrième observation. Je vous ai raconté la dernière fois que le 3 juin 1999, la Cour de cassation avait annulé le premier jugement. Dreyfus cessait d'être condamné, il restait inculpé. 3 juin 99. Le 18 juillet 99, Esteraldi, qui s'est sauvé en Angleterre, dès le lendemain du jour où Henri s'est suicidé, il est parti le 1er septembre 98 et Henri s'était tué, ou avait été tué, le 31 août 98. Alors, le 18 juillet 99, de Londres où il est, Esteraldi envoie au quotidien français Le Matin une grande déclaration que Le Matin fait reproduire autographiée, c'est-à-dire avec l'écriture même d'Esteraldi, la signature et la date. Et dans cette déclaration, Esteraldi dit, eh bien, c'est vrai, c'est moi l'auteur du bordereau. C'est moi qui l'ai écrit par ordre. Et par ordre, ça voulait faire sous-entendre, car il ne s'expliquait pas, faire sous-entendre au public, j'étais moi aussi un agent du SR et j'essayais de tromper l'Allemagne. Mais enfin, il y avait l'aveu d'Esteraldi. J'ai écrit le bordereau. Bien, 18 juillet 99. Vous vous rappelez que le deuxième procès, c'est de Rennes, deuxième fois de Dreyfus comparé, c'est à partir du 7 août 99 jusqu'au 9 septembre 99. Il y a quelqu'un que je n'aime pas beaucoup, qui s'appelle Jacques Dainville, qui passait pour être un historien, mais comme il était en même temps l'Action française, les deux termes s'expliquent, on peut pas être historien et l'Action française. Enfin, Dainville, dans son histoire de la Troisième République, a une phrase à laquelle cette fois je souscris totalement. Dainville dit, il est véritablement prodigieux qu'Esteraldi n'ait pas été convoqué au procès de Rennes. En effet, pour Sibali, de quoi j'ai dit, il y a un certain bordereau. Un monsieur Dreyfus est accusé d'être l'auteur de ce bordereau et dit, je n'en suis pas l'auteur. Et un monsieur Esteraldi dit, ah moi, j'en suis l'auteur. Alors comment se fait-il que dans ce procès de Rennes, on ne fasse pas comparaître celui qui déclare être l'auteur du bordereau? Eh bien, on ne convoquera pas Esteraldi, parce que l'armée ne veut pas qu'Esteraldi comparaisse à Rennes. Pourquoi ne veut-elle pas? Parce que si on lui pose des questions, il finira par mettre en cause la personne qu'il ne faut jamais mettre en cause, c'est-à-dire la source. Donc, quelqu'un dont le nom était tellement énorme qu'il ne devait jamais être prononcé. En 1955, on a publié des notes de M. Paléologue. Paléologue, c'est un diplomate qui était chargé au Quai d'Orsay des rapports avec l'armée. Et dans ces notes de Paléologue, on voit ceci, des notes de 98-99, nous savons très bien que Esteraldi est innocent, ce Dreyfus est innocent, les coupables, les coupables sont, Esteraldi, un nommé Weil, dont on n'avait pas encore entendu parler, Weil, qui était un officier de territorial et ami d'Esteraldi. Et troisièmement, alors la source, le gros personnage, et une haute personnalité militaire dont le nom ne doit pas paraître. Quand on a publié ça en 55, la maison d'édition n'a pas imprimé le nom qui était dans le manuscrit du Paléologue, parce que la famille de ce général s'en est opposée. Je sais quel est ce nom qui était dans le manuscrit Paléologue. Et ce nom avait du reste paru en 1954, il avait été imprimé en 1954, dans le livre d'un général Le Grand Girard, qui était mort, et dont on publiait les mémoires sous le titre de Un quart de siècle au service de la République. Ce général Le Grand Girard, qui était mort général, était commandant au moment de la guerre d'Algérie, et il appartenait à la maison militaire du président de la République. Et dans les notes de Le Grand Girard, il y avait, dans l'entourage de la présidente de la République et du Code des affaires étrangères, on dit que la source d'Esteraldi est le général Rau, R-A-U. Et vous vous rappelez, dans le petit bleu, il y avait ceci, Sarkopen disant à Esteraldi, j'ai besoin d'avoir de vous des déclarations écrites pour savoir si je puis ou non continuer une relation avec la maison R, R majuscule. Qui était le général Rau? Eh bien, c'était le chef de cabinet du ministre de la Guerre. Évidemment, très bien placé. Chef de cabinet du ministre de la Guerre, du ministre Mercier, et du courant de tous les secrets. Et pendant longtemps, on a murmuré que le général Rau était le vrai coupable. Je ne le crois pas. J'ai des tas de raisons pour ne pas le croire, c'est trop long à vous expliquer, mais enfin, les gens compétents, M. Thomas et d'autres, je m'accorde avec eux, ça ne doit pas être Rau. Alors qui est-ce? Puisqu'il y a forcément quelqu'un. Ben, on n'a pas assez prêté garde à une déclaration de Picard au moment de la deuxième réunion de la Cour de cassation, alors qu'il s'est agi en 1904 de savoir si on allait ou non réhabiliter Dreyfus. En janvier 1904. Picard, comparaissant devant la Cour de cassation, dit pourquoi n'a-t-on jamais regardé du côté du général Saussier, S-A-U-S-S-I-R, Saussier, qui était Saussier, le vice-président du Conseil supérieur de la Défense nationale. Le président du Conseil supérieur, c'est un personnage qui change, c'est le ministre. Mais un personnage qui ne change pas, c'est le vice-président. Et ce personnage-là, qui est toujours un général, on l'appelle même le généralissime. Donc c'était la plus haute personnalité militaire de l'armée, général Saussier. Et pourquoi est-ce que Picard parlait de Saussier? Parce que Saussier était lié avec Esteraldi. Esteraldi lui avait rendu des services. et qu'il y avait une protection permanente de Saussier sur Esterhazy. On ne pouvait pas toucher à Esterhazy sans mettre en cause Saussier. Mais Picard ne savait pas, ce que nous savons aujourd'hui, que je vais maintenant vous indiquer, et qui me paraît très important, hein, vous en jugerez. Peut-être que vous vous rappelez que c'est le 6 octobre 1994, que cette espèce de farfelu qui s'appelait Daboville, le lieutenant-colonel Daboville, sous-chef du 3e bureau, avait prétendu reconnaître l'écriture de Dreyfus dans l'écriture de Bordereau. 6 octobre. Le 7 octobre, le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Anotou, reçoit la visite de qui? De Saussier, gouverneur militaire de Paris et généralissime. Et Saussier vient dire au ministre des Affaires étrangères, et une histoire de Dreyfus, il paraît que Daboville a reconnu l'écriture de Dreyfus, je vous assure, monsieur le ministre, arrangez-vous, enfin faites que on stoppe tout de suite les poursuites. Il ne faut pas que cette histoire éclate. Excellent, Saussier empêche que l'on poursuive un instant. Bon. Mais c'est que Saussier, généralissime, dit quelque chose de bien plus grave à un auto, ministre des Affaires étrangères. Saussier lui dit, je voudrais qu'on arrête à tout et que nous n'en aussi même pas d'enquête. Alors comment se comprend-il? Le généralissime est en face d'une affaire de trahison. Il ne veut pas qu'on fasse d'enquête, pas d'enquête, sur l'affaire de trahison. Tout se passe comme si le général Saussier, le généralissime Saussier, s'était dit, mais on va voir apparaître le nom de Esterhazy, je vais être moi-même compromis, stop. Picard propose l'idée du chantage. Il dit, est-ce que Saussier n'aurait pas été victime d'un chantage? Quel chantage? Picard n'a pas voulu s'expliquer, mais moi je peux le faire maintenant. Saussier, vieux, il avait 110 ans, il allait prendre sa retraite, avait pour maîtresse précisément la femme de Weil, de l'officier Weil. Weil était ami d'Esterhazy. Et la petite Madame Weil était autrichienne. Alors, il est bien possible que Madame Weil ait pris des documents associés et qu'elle les avait repassés à Esterhazy qui lui les vendait. C'est possible. Je n'en sais rien, c'est possible. Toujours est-il mes certitudes, celles que je voulais vous laisser en souvenir à la fin des entretiens, mes certitudes, ma certitude absolue, c'est qu'il y avait évidemment quelqu'un derrière Esterhazy et ce quelqu'un était une très haute personnalité militaire. Mais maintenant, je voudrais vous proposer, oh mais je dis bien proposer, hein, une hypothèse. Je me demande si Esterhazy n'a pas dit la vérité lorsqu'il a déclaré qu'il avait écrit le bordereau par ordre. Bien sûr qu'il ment quand il dit qu'il était un agent double. Il n'était pas du tout un agent double. Il ment. Mais c'est peut-être vrai que le bordereau lui a été dicté. Alors voilà mon hypothèse. Je vous dis bien cette hypothèse. Sander, le chef du SR, c'est un bon français, c'est un Alsacien. Il sait que Esterhazy porte des documents à l'Allemagne. Mais il ne peut pas mettre sur la main sur Esterhazy parce qu'il sait que Esterhazy est couvert par Saussier. Sander ne sait pas quels sont les rapports exacts. Sander ne veut pas croire tout de même qu'il y a le père Saussier, comme on disait dans l'armée, qu'il est prévu, qu'il y a le père Saussier qui trahit. Non. Sander se dit, probablement qu'Esterhazy, par la voix de Madame Weil, obtient des documents, enfin, chez Saussier, et les vend. Mais on ne peut pas toucher à Esterhazy, étant donné la protection de Saussier. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Sander voudrait bien faire son métier, qui est de protéger les secrets de l'armée française. Alors supposons, je dis bien supposons, supposons que Sander convoque chez lui Esterhazy, dans son bureau, puis lui dit, vous allez écrire, je vais être son supérieur, hein, puisque Esterhazy n'est qu'un major. Écoutez, monsieur le major, vous allez écrire, sous ma dictée, le bordereau suivant, la lettre suivante. Et il lui dicte la lettre que nous connaissons. Cette lettre n'ira jamais à l'ambassade d'Allemagne, jamais. Elle sera fabriquée là au SR, elle ne bougera pas du SR, elle n'en sortira pas. On déclarera ensuite qu'on l'a citée dans la corbeille à papier de l'Allemand, qu'elle est là. Non, en réalité, elle était là. Bien. Alors il lui dicte cette lettre. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Il y a, sans nouvelles de vous, monsieur, depuis un certain temps, je vous envoie néanmoins les indications suivantes. Notez bien que cette lettre n'est pas criminelle, puisqu'on ne sait pas qui est monsieur. En plus, elle n'est pas signée, elle n'est pas datée. Alors quand Esterhazy écrit ça, ben, il n'a pas le sentiment qu'il met le couteau sous la gorge, puisqu'on ne lui demande pas de signer. Mais Sander a maintenant entre les mains de l'écriture d'Esterhazy, avec fourniture à un X. Cet X, on va dire, c'est l'attaché militaire allemand. On fait des photographies de ce document. Une de ces photographies vient sous les yeux, forcément, du général Sim Saussier. Saussier prend peur, fronce le sourcil et dit, mais quoi, qu'est-ce que c'est que ces documents qui m'appartiennent? C'est l'écriture d'Esterhazy que je connais très bien. Attention. Alors, ce que voulait obtenir Sander, je crois qu'il l'a obtenu, il a alerté le père Saussier, qui est devenu plus surveillant, enfin, qui a les yeux plus ouverts, plus vigilants, qui voulait sur ces documents. Pendant un certain temps, Esterhazy va continuer à avoir de bons documents à vendre à l'Allemagne, mais à partir du début de 95, les documents ne vaudront plus rien. Carnet sur Schopen. Schopen dit, c'est produit un moment où Esterhazy nous a porté toute la broutille, c'est-à-dire en gâteau, les choses qu'il essayait de me faire payer toujours 1000 francs, mais qui ne valaient plus rien. Pourquoi? Parce que la source, c'était ça. Donc, au départ, c'est pas du tout une histoire d'antisémitisme. On n'a pas essayé de démolir le personnage de Dreyfus. C'est cet imbécile de Daboville qui, d'un coup, a inventé d'identifier l'écriture du Bordeaux à celle de Dreyfus, et Sander, très antisémite comme on l'était dans l'armée à ce moment-là, s'est frotté les mains, et s'est dit, après tout, c'est un coup double. Premièrement, je vais alerter Saucy et les fournisseurs vont cesser, et puis deuxièmement, on va se débarrasser d'un petit juif, ça sera autant de moins dans l'armée. Ceci est une hypothèse. Mais pour finir, je voudrais appeler votre attention sur un texte que vous connaissez peut-être pas, qui est Peggy, il a beaucoup écrit sur l'affaire Dreyfus. Mais le texte que je vais vous dire est un texte du Peggy qu'on ne publie. Pourquoi donc? Oui, il y a deux Peggy, vous savez. Il y a le Peggy avant les cahiers de la quinzaine, très célèbre, et puis il y a le Peggy avant les cahiers de la quinzaine, qui écrivait dans la revue blanche, cette même revue où Vinda avait dit ces choses très vilaines sur les généraux. Eh bien, Peggy avait écrit dans la revue blanche du 15 août 1899, une petite phrase sur laquelle j'ai terminé. Il s'agissait de cette émotion presque mondiale, qui était emparée des gens, à propos de l'affaire Dreyfus. Vous savez, les filles, comme les Français, comme les Belges, se sont passionnés pour cette affaire Dreyfus. Elles débordaient le cadre de la France. Le monde entier était là suspendu. Est-ce que c'est vrai qu'il est innocent, mais qu'il est connu pour le lâcher? Alors voilà ce qu'il a payé. L'affaire Dreyfus n'aurait pas eu ce ressentissement universel si la France n'avait pas reçu depuis longtemps dans le monde et n'avait pas gardé auprès des peuples une audience particulièrement attentive. Cette audience est la meilleure part de son héritage. Les nationalistes ont tout fait depuis 2 ans pour la lui faire perdre. Les Dreyfusards ont réussi à la lui conserver. 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 On réussit 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 à la lui conserver. On réussit.